France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série d'été Les grands accords internationaux. Aujourd'hui, nous serons en Europe pour faire le bilan, 30 ans après leur mise en vigueur, des accords de Schengen. Si l'Europe sans frontières, à ses débuts, était considérée comme une spectaculaire avancée, elle est de plus en plus contestée aujourd'hui par ceux qui réclament une restauration de la souveraineté nationale face à l'afflux migratoire. L'idée avait été lancée en 1985 à l'initiative de Paris et de Bonn dans une Europe encore découpée par le rideau de fer. À leur début, les accords de Schengen assurent la liberté de circulation des personnes entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils se sont ensuite élargis au fil des années jusqu'à pratiquement épouser aujourd'hui les contours de l'Union européenne. Mais la pression migratoire au sud de l'Europe, qui fragilise les pays les plus exposés, comme la Grèce et l'Italie, ainsi que les attentats terroristes, notamment ceux de Paris en 2015, ont mis en évidence les failles et les faiblesses de Schengen et nourrit les courants politiques qui réclament un rétablissement des frontières. Malgré des réformes successives, permettant notamment la restauration provisoire des contrôles entre les pays en cas de forte pression migratoire, le système paraît aujourd'hui à bout de souffle. Ce dispositif, conçu par temps calme, semble de plus en plus inadapté aux périodes de tempête comme celle que vit le continent européen aujourd'hui, alors que les guerres frappent à ses portes. Et pourtant, un retour en arrière semble impossible. Pourquoi ? Et quelles sont les solutions ? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec Yves Bertoncini. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé l'Institut Jacques Delors entre 2011 et 2017. Vous êtes aujourd'hui consultant en affaires européennes et professeur à l'ESCP et au Corps des Mines. J'accueille aussi Sylvie Goulard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne députée européenne et vous êtes, vous, enseignante à l'Université Bocconi à Milan. Bonjour donc à tous les deux. On va commencer par revenir un petit peu à l'époque. Yves Bertoncini, quelle est l'origine des accords de Schengen? Par quoi ont-ils été motivés? Est-ce que c'est par la nécessité de mettre, en gros, fin aux embouteillages entre la France et l'Allemagne? Ou est-ce que la motivation, c'était une idée plus philosophique et plus noble, consistant à avoir davantage de liberté en Europe?
Il y avait certainement une motivation hybride à l'époque de l'accord de Schengen, mais la légende raconte, et puis les archives, hein, parce que maintenant on a le recul, 84-85, que lors d'un entretien à Strasbourg, François Mitterrand et Helmut Kohl, qui constatent que le pont de Kiel est saturé de camions, qui constatent concrètement que l'interdépendance économique et humaine entre la France et l'Allemagne a atteint un tel degré que maintenir des contrôles systématiques à la frontière est vraiment contre-productif, gâche la vie des honnêtes gens, on va dire les choses comme ça, eh bien se disent non, il faut en finir avec ça, et signent ensemble en 84 un accord à Sarrebruck qui concerne la France et l'Allemagne au départ. Et alertés par cet accord, les pays du Benelux, et notamment les Pays-Bas, la Belgique, qui ont des ports, hein, Rotterdam, Anvers, se disent, oula, si les deux plus grandes économies de ce qui n'est pas encore la zone euro s'allient, si on peut livrer à Hambourg ou au Havre et ensuite pouvoir circuler librement au sein de ces deux grandes économies, sans contrôle systématique aux frontières, alors nos ports à nous sont en danger, Rotterdam et Anvers. Et donc ils rejoignent le mouvement, et je dirais que l'accord de Schengen est signé en terrain neutre, au Luxembourg, en 85, mise en œuvre, comme vous l'avez dit, en 95, effectivement, avec la Convention de Dublin au passage pour l'application, en 90, et donc 30 ans. Alors pourquoi je fais ce rappel et pourquoi je repars par l'économie? Parce que c'est ce qui fait que ça tient, en réalité, toujours aujourd'hui. Au-delà de ce qu'on peut en penser de cet accord, au-delà du fait qu'effectivement, il octroie bien davantage de liberté, non pas seulement aux transporteurs routiers, mais aussi aux frontaliers, on y reviendra. Évidemment, les étudiants, les hommes d'affaires, tout ce qu'on voudra, mais c'est l'économie. L'interdépendance économique et humaine qui a fondé le lancement et qui fonde, je dirais, l'existence de l'accord de Schengen, en dépit de toutes les tensions dont il est victime, de ses imperfections également, et là aussi je pense qu'on y reviendra.
Sylvie Goulard, est-ce que vous avez la même lecture, en fait, du début de cette aventure?
Alors oui, effectivement, l'économie aide à tenir le coup. Je crois quand même que dans les années 80, le désir d'Europe était plus grand et que la volonté politique, notamment du chancelier Kohl, du Mitterrand et du Benelux, qui à l'époque fonctionnait vraiment comme une entité politique capable d'apporter des impulsions, a été en faveur de la liberté. Et je crois que ça vaut la peine quand même de le redire en ce moment, dans un moment où tout le monde se barricade, parce que en fait, c'est typiquement le genre de mesure dont on ne voit plus à quel point elle nous facilite la vie. Parce qu'on n'a plus en tête des contrôles aux frontières, dans les aéroports ou au passage de la frontière. Et quand on parle d'économie, il faut pas oublier que c'est la vie des chauffeurs de poids lourds, c'est la vie des gens qui font nos déménagements transfrontaliers. Enfin, oui, c'est les hommes d'affaires, c'est ceux qui voyagent, mais ça n'est pas non plus des mesures pour l'élite. C'est quelque chose qui facilite la vie quotidienne de nombreux frontaliers et de nombreuses personnes qui, pour leur travail, passent les frontières de ce qui est un espace économique unifié. Et ça aurait quelque chose d'absurde de vouloir avoir tous les avantages d'un marché unifié et tous les cloisonnements du moment où il n'existerait pas.
Alors, en fait, bien avant les attentats de Paris et les grandes crises migratoires, les accords de Schengen sont déjà critiqués par certains hommes politiques, et notamment par Nicolas Sarkozy. On va l'écouter lors de son grand meeting de campagne à Villepinte en 2012. C'est un son Euronews.
Les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité de la situation. Ils doivent être révisés. Il faut mettre en œuvre pour Schengen une réforme aussi structurelle que celle que nous venons de mettre en œuvre pour l'euro. On ne peut pas laisser la gestion des flux migratoires entre les seules mains des technocrates et des tribunaux.
Sylvie Goulard, on est déjà quand même assez tôt, c'est-à-dire avant les attentats terroristes, et déjà à l'époque, Schengen est contesté.
Alors, on est en campagne. Je vais vous dire, quand on est en campagne, l'Europe, on n'a pas des meetings, on a des bergeries. Des bergeries dont on sort des moutons et on fait des actes de sacrifice du bouc émissaire dans tous les meetings de campagne, dans tous les pays d'Europe. Vous avez des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche qui vous sortent des tas d'âneries qui consistent à promettre ce qu'ils ne tiendront pas. Et d'ailleurs, dans les propos du candidat Sarkozy, il parle de pression migratoire. Il ne parle pas seulement de traversée de la frontière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre la France et l'Allemagne. Il parle de ce que nous faisons de ressortissants de pays tiers qui arrivent dans nos pays et qui, à l'intérieur de cet espace, doivent faire l'objet d'une gestion collective. Et donc, c'est là qu'on voit la différence entre le degré de liberté qui a été donné, l'ouverture de la frontière entre nous, et le refus de gérer collectivement certaines questions qui, à partir de ce moment-là, c'est exact, sont des questions d'intérêt commun.
Yves Bertoncini, est-ce qu'il y a une espèce de lutte, de rivalité entre les partisans de la liberté et les partisans de la sécurité autour de l'accord de Schengen?
Oui, mais c'est autour de vraiment de ce sujet que se nouent les tensions, le débat. Et à partir de représentations qui sont souvent erronées, hein, d'ailleurs, il me semble, de la réalité. C'est pour ça que j'ai insisté, moi, sur la représentation de l'espace Schengen. Schengen, c'est à la fois un espace, un code qui organise la coopération policière et judiciaire. Puis c'est une marque, et c'est même un marqueur, et c'est devenu un marqueur politique. Alors, je parle de représentation, à la fois d'un côté de ceux qui communient dans une forme de mystique circulatoire, qui ne met pas étrangère, mais qui insiste énormément sur les enjeux de liberté, qu'il faut en effet préserver, et qui laisse à ceux qui, eux, campent sur leur précaré national, la mystique sécuritaire. On voit Nicolas Sarkozy qui, sous couvert de protéger la veuve et l'orphelin, dit que Schengen, ça va pas du tout, il faut réformer tout ça. Ce qui d'ailleurs a été fait, je le signale au passage, c'est vrai que tout n'était pas prévu dans le code Schengen. Et par exemple, le fait qu'on puisse contrôler quand ils reviennent de l'extérieur des ressortissants européens, ça, c'était pas prévu. Et donc, ça a été prévu, hein. Le code Schengen a été révisé plusieurs fois, y compris dans les années qu'évoque Nicolas Sarkozy. Simplement, ce qui est fâcheux, c'est cette idée que ce qui va nous protéger, ce sont les bonnes vieilles frontières nationales. C'est même pathétique dans le pays de la ligne Maginot, parce qu'il est bien connu que la ligne Maginot nous a très fortement protégés de l'envahisseur à l'époque. Bon. Ce qu'il faut, c'est arriver à réconcilier la liberté et la sécurité. Moi, je suis absolument content, heureux. La première fois que j'ai franchi une frontière sans contrôle, c'était d'ailleurs entre la Belgique et le Luxembourg, la France, le Luxembourg, la Luxembourg. J'ai jubilé, je dis les choses comme ça, j'ai jubilé. C'était la nouvelle Europe dont parlait Sylvie avec après la chute du mur de Berlin, voilà. Mais je suis très attentif aux défis sécuritaires. Et je dis, et c'est ce que les hommes politiques ne font pas, les responsables politiques, que la mystique des frontières est totalement fallacieuse. On n'arrête pas les terroristes aux frontières. C'est pas vrai. On n'a jamais arrêté aucun terroriste à aucune frontière. On vient de parler de Nicolas Sarkozy, mais si on évoquait Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs la phrase qu'il a dite à Marine Le Pen dans son débat de l'entre-deux-tours en 2017. Le problème, c'est que quand il y a eu quelques temps plus tard un attentat dans une église à Nice, il s'en est allé à la frontière franco-espagnole en annonçant le renfort imminent de 2000 hommes et femmes aux frontières françaises. Il aurait pu dire aux frontières européennes, non, il a dit aux frontières françaises. En d'autres termes, voilà, les responsables politiques, à un moment, même l'un des très européens que nous avons, hein, Emmanuel Macron, se laisse aller à cette idée que les frontières vont nous protéger. Vous avez évoqué les tragiques attentats de novembre 2015. Le président de la République, à l'époque, c'était François Hollande, hein, comme ça, il y en a pour tout le monde. Il est allé à la télé au milieu de la nuit dire, et je l'ai compris dans l'émotion, j'ai décidé de fermer les frontières. Alors, premièrement, on ne ferme pas les frontières, c'est pas vrai. Ça aussi, c'est une expression fallacieuse. Fermer les frontières. Et puis, non, ce qu'il a annoncé, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, ça avait déjà été fait le matin même. C'est-à-dire le rétablissement des contrôles systématiques aux frontières françaises, qui est tout à fait possible.
Qui est permis grâce aux réformes, en fait, de Schengen.
Hein. Absolument. Mais de toute façon, et ça aussi, il y a un problème de sémantique. On le dit, on suspend les accords de Schengen. Pas du tout. On applique les clauses de sauvegarde qui sont prévues tout à fait dans les accords de Schengen. Mais je termine sur François Hollande. Il a donc annoncé qu'il allait fermer une porte qui était déjà fermée parce qu'on avait déjà rétabli le matin même le contrôle systématique aux frontières françaises parce que la COP21 allait être organisée et qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement culturel, sportif, oui, effectivement, les États membres ont la possibilité de rétablir ce contrôle aux frontières. Et pour autant, Salah Abdeslam qui est parti et qui a été contrôlé à Cambrai. Est-ce qu'il a été arrêté? Eh bien non. Et vous savez pourquoi? Parce que du point de vue sécuritaire, c'est pas la défense à la frontière qui compte. C'est la coopération policière et judiciaire qui était totalement défaillante, qui s'est un tout petit peu améliorée depuis. En d'autres termes, la logique sécuritaire, et évidemment qu'elle est majeure en Europe, mais elle ne doit pas être réduite à la mystique des frontières. Parce que là, on y perd sur les deux tableaux. On emmerde tous les honnêtes gens qui peuvent pas passer correctement la frontière. Et on arrête aucune des menaces auxquelles nous devons faire face.
Alors, on va voir qu'il n'y a pas que François Hollande et Nicolas Sarkozy, hein, parce que à chaque fois que la crise migratoire est ravivée, l'espace Schengen est remis en question. Et là, on va écouter le maire de Lampedusa. C'est un son de France 5.
Lampedusa a toujours été une terre d'accueil, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Pendant toutes ces années, mon île a dû faire face à ce triste phénomène. Maintenant, l'Europe doit agir pour mettre en place une opération de secours pour toute la Méditerranée.
Alors, Sylvie Goulard, les accords de Schengen, ou l'accord de Schengen, comme l'appelle Yves Bertoncini, a été fragilisé, en fait, par les crises migratoires successives et par les attaques terroristes. Comment on fait ?
Comme l'a très bien dit Yves, ça n'est pas l'accord de Schengen qui est fragilisé.
Si, parce qu'il est remis en question.
Non, ce sont les sornettes qu'on raconte sur l'accord de Schengen, ce qui est quand même très différent. Alors, on a entendu le maire de Lampedusa, minuscule petite île au large de la Sicile, qui effectivement est en première ligne. Mais qu'est-ce qui se passe à Lampedusa? Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des gens qui veulent rentrer en Italie. C'est bien pour ça que la question des frontières nationales n'est plus celle que nous devons regarder malgré leur valeur symbolique. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Yves sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout de mettre en péril la sécurité des Européens. Il faut arrêter d'opposer les deux. Mais il faut se poser la question, que font les Italiens à Lampedusa, que font les Grecs à Samos, les Espagnols dans les enclaves en Afrique? Ils défendent la frontière de l'Union Européenne. Ils défendent la frontière du monde qui est le nôtre, beaucoup plus riche que celui des pays du Sud. Donc le problème, ce ne sont pas du tout les règles d'entrée, c'est la manière dont nous percevons cet espace que nous avons par ailleurs voulu. Et c'est là que je dis qu'il ne faut pas être dans la contradiction. Nous voulons bénéficier de tous les avantages économiques et personnel que nous procure la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, etc. Donc ça appelle à une politique migratoire commune qui certainement sera mise en œuvre pour le moment sur le front sud. Mais demain, regardez le délire de Monsieur Trump. Il y a une chose derrière ce délire qui est juste, c'est que probablement la fonte des glaces va aboutir à des nouveaux flux de circulation par les pôles. Peut-être que demain, ça sera la Suède ou l'Irlande qui seront en première ligne. Donc la question est vraiment de savoir comment nous envisageons collectivement l'entrée sur le territoire européen.
Alors pour régler le sort des frontières internes à l'Europe, je voudrais juste en fait vous demander, Yves Bertoncini, qu'est-ce qui se passe demain si on rétablit les contrôles aux frontières ? Concrètement, quelle serait la vie des transporteurs de fruits et légumes, mais aussi des gens normaux qui traversent quasiment tous les jours les frontières ? On fait un retour en arrière, là.
Oui, vous pourriez même demander qu'est-ce qui s'est passé quand, par exemple, après quand même beaucoup d'années de résistance, l'Allemagne d'Olaf Scholz a dit qu'il allait rétablir le contrôle systématique aux frontières allemandes, ce qui, encore une fois, n'est pas une violation des accords de Schengen, mais une application des clauses de sauvegarde qui sont incluses dans les accords de Schengen. Alors d'abord, il faudrait voir ce qui se passe en vrai, parce que j'appelle votre attention sur le fait que c'est une technique de communication. Bon, c'est très facile aujourd'hui, sans se déplacer, d'aller voir des webcam, etc. C'est du pipeau tout ça. C'est pas vrai que l'Allemagne a contrôlé systématiquement tous ses points de passage, la frontière, etc. Bon, mais j'essaye d'aller dans votre logique. Admettons que vraiment l'Allemagne, ou la France, allez, prenons l'exemple de la France. Bon, écoutez, il y a 2 millions de frontaliers au moins en Europe, dont la France, pratiquement 500 000. Hein. 500 000, on est les premiers en France, donc c'est vachement malin, d'ailleurs, de rétablir le contrôle systématique aux frontières de notre pays. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Bah, quand ils arrivent pour prendre leur travail au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, bah, simplement, ils ont un embouteillage monstrueux sur l'autoroute, ou alors quand ils sont dans un train, ben le train est arrêté, hein, comme à l'ancienne, hein, en pleine voie, et puis on va faire le contrôle systématique de tous les papiers. Alors évidemment, c'est pas pour eux. C'est pour essayer de trouver des terroristes qui sont tellement cons qu'ils vont effectivement déclarer qu'ils sont terroristes et venir avec leurs armes en plus de ça, ou alors quelques migrants planqués par des passeurs. Eh bien, ce qui passe, c'est que ça a un coût économique humain faramineux au regard d'un bénéfice quasi nul. Les transporteurs routiers pour qui ça a été fait, bah écoutez, il suffit d'aller dans des pays en Turquie, dans ces coins-là, regardez la frontière turco-bulgare, etc. Bah retournons dans l'ancien monde. C'est du temps perdu, de la pollution, des camions qui tournent aux frontières. Voilà. Bon, c'est pour les consommateurs qui voulaient acheter des clopes de l'autre côté de la frontière, bah ils iront plus, ça, ils pourront s'en remettre. Hein, mais effectivement, les voyageurs, les touristes, tout ça, ça rendra la vie hyper compliquée à tout le monde. Je ne dis pas que c'est impossible. J'allais dire, si on était encore dans la mystique nationale, imaginez qu'on rétablisse des contrôles entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Voilà. On peut le faire. Simplement entre...
Il y en a qui s'appellerait en l'occurrence.
C'est ce que j'allais dire.
Entre Paris et les Hauts-de-Seine. Voilà.
Il y a encore les octrois à la sortie de Paris. On peut imaginer ce que c'était avant quand il y avait les octrois. Non, si je puis me permettre, je voulais dire, d'abord, on a un exemple de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et on a vu qu'en dépit de toutes les promesses, et moi j'insiste là-dessus pour les auditeurs, ne croyez pas les gogos qui veulent se faire élire en vous promettant des choses qu'ils ne mettront pas en œuvre. Donc on le voit avec le Brexit, ça a été un vrai problème, ça a abouti à une baisse de l'activité économique, donc des emplois en main, etc. Deuxièmement, deux petites anecdotes de l'époque où j'étais parlementaire européenne, parce que comme l'a dit Yves, il y a largement du pipeau. Parlement européen, j'allais souvent en Allemagne, au moment des attentats, période tragique, hein, dont on comprend que les responsables aient essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient parce que c'était abominable, le bain de sang du Bataclan. Mais justement, je me souviens très bien du moment où je me trouvais au Parlement européen. Il y avait eu dans la journée, je dirais plus quel ministre, je sais même plus qui c'était, qui était allé sur le pont de Kehl, qui avait pris des photos, des contrôles. Et un des chauffeurs du Parlement qui devait m'emmener en Allemagne, je lui dis « on va avoir du mal à passer ». Il m'a dit « mais madame, vous plaisantez ». Il m'a dit « là, c'est pour les journalistes, nous on va prendre d'autres routes et on va passer par des petits ponts et de toute façon, heureusement qu'ils y sont, parce que sinon tous les frontaliers pourraient pas aller bosser ni rentrer le soir ». Et la deuxième chose qui m'avait beaucoup frappée, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il y avait eu cette tentative d'attentat dans le train qui allait à l'époque de Paris à Bruxelles et qui s'appelait le Thalys, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a introduit des contrôles du côté français. Donc vous preniez le train le matin et vous étiez contrôlé, etc. Sauf que dans l'autre sens, il n'y avait pas de contrôle du côté belge. Donc vous rentriez sans contrôle. Alors moi je ne sais pas quelle est la bonne méthode, peut-être que c'était justifié ces jours-là, mais ce qui était certain, c'est que, comme l'a dit Yves, les terroristes ne sont quand même pas assez idiots s'il y a des contrôles dans un sens pour prendre le train dans ce sens-là et ne pas le prendre dans l'autre. Donc voilà, il faut des systèmes qui seraient sans faille. Ça veut dire qu'il faut inventer d'autres systèmes, encore une fois, pour défendre la sécurité, mais pas raconter des histoires aux électeurs.
Alors, vous allez répondre, Yves Bertoncini, mais avant, je voudrais qu'on écoute un son allemand, hein, puisque c'est un son de Olaf Scholz, juste après l'attaque au couteau de Solingen, fin août 2024. C'est une archive de Public Sénat.
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir le rapatriement et l'expulsion de ceux qui ne sont pas autorisés à rester en Allemagne. J'ai parlé tout à l'heure de ma colère, une colère dirigée contre les islamistes pour la coexistence pacifique de nous tous. Même s'ils menacent la coexistence pacifique des chrétiens, des juifs et des musulmans, nous sommes un pays qui se serre les coudes et nous ne permettrons pas que cette cohésion soit détruite.
Alors, Yves Bertoncini, c'est un gogo aussi, Olaf Scholz ou...
Non, mais moi je souscris tout à fait à ce qu'il dit. Ce qui m'échappe, c'est en quoi ceci va être rendu possible parce qu'on rétablit le contrôle systématique aux frontières allemandes. C'est tout. D'ailleurs, en l'espèce, il dit qu'il faut expulser d'Allemagne ceux qui ne respectent pas les règles de l'Allemagne. Mais pas de problème, évidemment qu'il faut le faire. La logique sécuritaire, bien sûr qu'on y tient tous, et moi le premier. Simplement, quand on l'applique, vous disiez, qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'ai débattu avec des nationalistes plusieurs fois. Je disais, alors, allons à la frontière franco-luxembourgeoise, comment vous faites? Ah oui, ben, il y aura deux files de voitures. Il y a la file de voitures où ils ont un petit badge, ils montrent que ce sont des frontaliers. On les contrôlera pas, ceux-là. Et naturellement, que si un terroriste voulait passer, il va pas se procurer une voiture où il y a déjà un badge. Non. Donc, on contrôlera tout le monde. Le plus drôle, c'était les trains. Non, non, mais on contrôlera que ceux qui ont l'air de migrants et pas les autres. Oui, ben, et donc, on contrôle les wagons où il y a des migrants et puis les autres wagons, ils filent tout seuls avec l'autre locomotive. Il y a deux locomotives. Non, mais tout ça, ça tient pas la route. Pardon. Et ça tient pas la route. Pardon, Sylvie. Parce qu'en fait, on veut défendre sur la ligne. Une métaphore plus joyeuse, la métaphore footballistique. Quand un attaquant arrive, le gardien, il reste pas sur sa ligne, il sort. En fait, il faut défendre dans la profondeur. Voilà. Les réseaux de passeurs, il faut aller les démanteler où ils sont. À la source, il faut agir. Les réseaux terroristes, c'est la même chose. On a mieux agi contre le terrorisme en allant frapper en Syrie, en Irak, l'État islamique. Et deuxième chose, en agissant chez nous, parce que à l'intérieur de nos frontières, il y a hélas des réseaux terroristes qui sont actifs. Pour lutter contre le terrorisme, il faut de la coopération policière-judiciaire. Il faut des espions. Il ne faut pas des plantons. Voilà. Et il y a un très beau film sur les frontières franco-belges. C'est Rien à déclarer de Danny Boone. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, je le recommande parce que ça tourne en dérision, effectivement, cette mystique des frontières. La frontière franco-belge rejoint ce qu'a dit Sylvie, l'anecdote franco-allemande. Franco-belge, écoutez, la frontière franco-belge, ça fait plus de 300 kilomètres, il y a 700 points de passage. Si vous voulez arriver à sécuriser la frontière franco-belge, pour le folklore, vous allez mettre des policiers sur l'autoroute, oui, bien sûr, mais les taxis malins, les terroristes méchants et les passeurs astucieux, ils iront passer ailleurs.
Sylvie Goulard.
Oui, l'intervention de Olaf Scholz, c'était un grand moment d'émotion et encore une fois, je ne veux pas qu'on donne l'impression que nous ne prenons pas au sérieux la perception d'une insécurité ni l'existence de réseaux terroristes. Mais il a parlé effectivement d'expulsion d'individus qui pourraient très bien être entrés d'ailleurs par des procédures tout à fait légales, avec des contrôles et qui se radicalisent sur nos territoires parce qu'ils fréquentent des lieux de culte radicalisés ou parce que devant leur ordinateur, ils gèrent leur frustration à coups de vidéos sanglantes. Donc, je crois que c'est très important d'expliquer aux gens qu'il y a l'objectif d'un côté et il y a la méthode de l'autre. L'objectif qui est de vivre dans un espace sûr, je crois qu'il faut que nous en fassions une priorité. La méthode ne peut pas être celle du passé. Et j'ai eu quelques responsabilités gouvernementales. Je me souviens quand j'étais ministre des Armées, effectivement, l'existence en Syrie d'un espace qui était contrôlé par ce qu'on appelait à l'époque Daesh, ou l'État islamique, dans lequel il y avait des camps d'entraînement, dans lequel il y avait des personnes qui étaient capables de financer des opérations terroristes sur notre sol. Le travail qui a été accompli là-bas par nos forces spéciales, par nos militaires, par la DGSE, a beaucoup plus contribué à la sécurité des Français que des contrôles qui, encore une fois, pèseraient sur notre économie. Parce qu'il faut quand même voir une chose qu'on ne dit pas dans le débat actuel. C'est que si nous rétablissons des contrôles, si donc nous fragmentons le marché intérieur, dans un moment où nous avons besoin d'être compétitifs et d'être forts vis-à-vis du monde extérieur, nous nous tirons dans les pieds. C'est ça le grand drame de, je dirais, de ce que racontent les nationalistes. Ils évoquent un temps qui a pu exister, mais qui n'est plus adapté à la base de notre prospérité actuelle. Donc nous avons l'euro, nous avons un marché intérieur, la libre circulation des personnes, elle est nécessaire pour que les capitaux circulent, pour que les biens circulent, et pour que nous soyons collectivement plus prospères, et donc que nous puissions prendre aussi toutes les décisions militaires ou de police qui garantissent notre sécurité. Donc c'est un tout. L'Europe, on ne peut pas la saucissonner en petits morceaux et penser qu'on va avoir tous les avantages d'un côté, mais qu'on n'aura aucune contrainte ou aucune obligation de se réorganiser. Parce que ce que l'accord de Schengen et de manière générale le fonctionnement de l'Union aujourd'hui permet, c'est si les policiers ont envie d'installer un contrôle sur l'autoroute plus loin de la frontière, si ils vont dans des quartiers où ils soupçonnent des gens de se cacher, enfin... Faut quand même expliquer aux auditeurs que tout ça est possible. Hein. On n'a pas démantelé les polices nationales, c'est absurde. On les a même aidés à coopérer. Et on a bien vu, sur plusieurs parcours de terroristes notamment, ou de criminalité organisée, on n'en a pas parlé, mais c'est très grave aussi, de trafiquants de drogue, que c'est la coopération internationale qui va nous aider à les combattre.
Yves Bertoncini ?
Oui, je crois que c'est là le défi en termes de souveraineté. La souveraineté, elle n'est pas que nationale, elle doit être de plus en plus partagée, parce que l'espace de libre circulation est déjà partagé. Et moi, je viens d'un territoire frontalier, la Savoie, je suis né à Chambéry, j'ai toujours vu ce qu'on appelle les douanes volantes. Bon, les contrôles aux frontières, évidemment, sont possibles. Et parfois, il y en a. Ça fait suer, d'ailleurs. Mais bon, de temps en temps. Simplement, quand vous bloquez un train qui va entre Chambéry et Turin, vous bloquez pendant une heure, bon, on s'en remet. Hein. Mais je crois pas que ça soit comme ça qu'on attrape les terroristes, encore une fois. Que les nationalistes nous citent un seul exemple de terroristes arrêtés à une frontière, un seul. Et puis, les réseaux de passeurs s'organisent autrement. Hein. Voilà, la souveraineté, donc, il faudrait l'exercer davantage. En européen, quand je parle d'aller frapper à la source, Sylvie, effectivement, a exercé des responsabilités de ministre de la Défense. Le sujet, c'est coopérer entre pays européens, parce que c'est vrai que la France a beaucoup fait en Syrie, mais si on l'avait fait tous ensemble, et il y avait d'autres aides, hein, et les Allemands nous ont même un peu aidés, les Britanniques, ça aurait été plus efficace. Quand il s'agit d'agir à la source des réseaux de passeurs avec les pays de transit, les pays sources, il faut le faire
en
européen.
La Roumanie a arrêté récemment début 2025, la personne la plus recherchée en France, qui s'était échappée d'une prison, qui est un narcotrafiquant, et il a été arrêté grâce à la police roumaine. Et je tiens à souligner qu'il a même essayé de soudoyer les policiers roumains, qui ne se sont pas laissés faire. Donc il y a quelques préjugés sur nos partenaires qui méritent d'être revisités.
Mais ce que ça signale, ça, voilà, c'est, je voudrais aller vers ça, c'est qu'il y a de toute façon, entre les polices parfois du même pays, un déficit de confiance. Entre les polices d'un pays à l'autre, un déficit de confiance. Les échanges d'informations qu'il faudrait faire, même si c'est un système assez intégré, hein, le système Schengen, le code Schengen, vous avez des systèmes d'empreintes, DAC, tout ça c'est partagé, bon. Mais vous avez un déficit de confiance. On l'avait vu au moment des attentats de novembre 2015 en France. Il y a eu, de la part de Bernard Cazeneuve, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, des réunions entre services où il disait clairement, c'est télévisé, hein, messieurs, je sais que vous ne vous parlez pas entre vous, mais là vous allez devoir le faire. Donc vous imaginez si entre les polices du même pays, il y a déjà la défiance, commençait de coopérer entre la police française et la police belge, par exemple, la police française et la police roumaine. Eh bien, ça a progressé. Voilà, ça a progressé. Mais là, il y avait un décalage culturel, je dirais, entre l'espace qui était ouvert et les services de police qui l'étaient moins. Le problème de l'espace Schengen, pendant longtemps, ça a été que tout le monde circulait librement, y compris donc les honnêtes gens, mais aussi les terroristes et les délinquants, mais pas les policiers ni les juges. Alors voilà, il y avait un décalage qui est en train d'être comblé. Mais pour autant, il y a toujours un déficit de confiance si on bat aux frontières extérieures, parce que, objectivement, Sylvie l'a dit, quand des migrants arrivent, des demandeurs d'asile qui se déclarent comme tels, à la frontière grecque et à la frontière italienne, c'est pas là qu'ils vont. Ils viennent en Europe. Et donc, il y a une suspicion légitime, hein, d'ailleurs, de la part des Français, des Allemands, qui se disent, après tout, pourquoi les Grecs ou les Italiens arrêteraient-ils ces flux? Parce que, et Berlusconi l'avait fait dans son style, il dit, mais moi, qu'est-ce que je m'en fous? C'est pas chez moi qu'ils viennent, je laisse passer.
Oui,
mais justement, pour être constructif, on a lancé un corps européen de garde-frontières. Ça, c'est pour résorber le déficit de confiance qu'il y a entre États membres. 10 000 hommes, 10 000 personnes à l'horizon de 2026. Sauf que c'est très lent, ça ne va pas assez vite, parce que les frontières européennes, il faudrait qu'on les contrôle entre Européens. Et c'est ça le défi de la souveraineté partagée. C'est pas la souveraineté nationale nationale, aux bonnes vieilles frontières nationales, c'est reconfigurer la souveraineté, la partager aux frontières européennes. Le corps européen de garde-frontières devrait servir à ça. Frontex en est un embryon, mais il y a toujours beaucoup de tensions. Les États membres ont du mal à mettre à disposition les personnels nécessaires. Et c'est très fâcheux, parce qu'on est au milieu du gué, j'allais dire. Et il faut passer le gué, y compris quand l'eau monte.
Alors Sylvie Goulard, parce qu'on a bien compris avec vous que la solution c'est juste de renforcer en fait les frontières extérieures de l'Union européenne, mais quand on voit des pays comme la Hongrie ériger des murs de barbelés contre la Serbie, et quand on entend là Yves Bertoncini, on se dit que les frontières extérieures de l'Union européenne sont-elles aussi des passoires, que Frontex ne marche pas? Quelles sont les failles en fait? Quels sont les problèmes? Pourquoi on n'arrive pas à instaurer un contrôle plus efficace aux frontières de l'Union européenne?
Alors d'abord, en évoquant M. Orban, vous parlez du plus grand passager clandestin de l'Union européenne. Hein. C'est pas notre modèle. M. Orban a l'habitude d'empocher les fonds, de se parer des plumes du président du Conseil de l'Union pour aller à l'étranger quand il a la présidence. Mais après, il ne tient pas ses promesses. Donc laissons de côté M. Orban.
Mais il n'est pas le seul à avoir érigé des murs.
Non, alors bah, d'ailleurs, s'il les érige à la frontière extérieure, il y en a à qui ça plaira. Puisqu'il fait le boulot, si j'ose dire, consistant à, selon eux, faire de l'Europe une forteresse. Bon, les causes de cette attitude ont été bien mentionnées déjà dans notre discussion, je les récapitule un peu. D'abord, les règles d'accueil des réfugiés ont malheureusement fait porter sur les pays de première arrivée un fardeau qui n'est pas juste. Et quand, depuis 2015, les Italiens...
C'est-à-dire Grèce et Italie, essentiellement.
Essentiellement Grèce et Italie. À l'heure actuelle, hein, comme je l'ai dit, ça pourrait changer un jour. Mais donc, vous arrivez dans un pays et en gros, on a beau dire qu'on ne leur fait pas confiance, mais c'est quand même là que les gens s'enregistrent et qu'assez largement, le problème doit être réglé. Donc, premièrement, est-ce que nous sommes prêts à réviser ce qu'on appelle les règles de Dublin, qui l'ont été un petit peu l'année dernière, mais de manière suffisante pour ne pas laisser le fardeau sur les pays de première arrivée. Deuxième chose, il y a une forme de nationalisme qui se perpétue dans les milieux de la police et de la justice, que ce soit par manque de confiance, par différences culturelles, etc., etc., mais qui fait que nous nous tirons dans les pattes. Puisque comme l'a très bien rappelé Yves, si nous travaillons de manière coopérative, nous démultiplions notre capacité face à une criminalité organisée ou à des réseaux terroristes qui, eux, se moquent totalement des organisations nationales. Donc, il faut que nous nous adaptions, je dirais, aux personnes que nous recherchons. Donc, la coopération internationale est nécessaire et doit permettre de surmonter l'obstacle de ce nationalisme. Après, la troisième chose, c'est ce qu'on a dit depuis le début de cette discussion. Moi, ce qui me frappe, c'est malheureusement les discours qui sont beaucoup faits, soit pendant les campagnes électorales, soit dans les moments d'émotion. Ça se comprend humainement, je ne jette la pierre à personne, mais ce n'est pas comme ça que nous allons arriver à faire avancer les choses dans la bonne direction, puisque la plupart des gouvernements se font élire sur un programme qui n'est pas applicable. Quand ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Alors c'est un mélange de « je reviens en arrière sans le dire », « je fais des trucs en laissant des trous parce qu'on sait très bien qu'il faut que le système soit pas étanche ». Donc je pense que nous sommes dans une période où nous allions y arriver. Ce que nous voyons aux États-Unis, ce que nous voyons dans le monde actuel, cette espèce de tension géopolitique, de repli général, nous montre à quel point l'Europe est indispensable pour notre sécurité, pour notre prospérité, pour la défense de notre valeur, pour notre envie de vivre comme nous avons envie de vivre. Donc je crois que c'est le moment ou jamais de se dire, formons une équipe, essayons de voir comment améliorer les choses et essayons de le faire sans aucune naïveté sur « on va tout faire demain matin », mais sans ces espèces de zigzags qui font que chaque fois qu'il y a un nouveau chancelier, un nouveau président qui arrive, un nouveau président du Conseil en Italie, on a à nouveau ce genre de campagne où on redégringole. Vous savez, c'est Sisyphe en quelque sorte. Quoi. On est tout le temps en train de pousser le rocher et puis on dégringole et on ne veut pas admettre qu'il faut construire dans la durée quelque chose de plus sérieux que ce que nous avons aujourd'hui.
Oui, c'est la différence entre le temps long et le temps court. Hein.
Et entre la responsabilité et la démagogie aussi, un petit peu.
Tout à fait.
Mais c'est pour ça qu'il y a aussi une responsabilité de ceux qui souhaitent, c'est mon cas, défendre, promouvoir Schengen, c'est de concilier, je dirais, l'idéologie circulatoire, et c'est pas une idéologie d'ailleurs, c'est une réalité, hein, ce qui existe aujourd'hui, hein, c'est un corps vivant, l'espace Schengen, et les nécessités sécuritaires. Il ne faut pas dissocier les deux, il ne faut pas laisser la sécurité aux nationalistes. Parce qu'en réalité, l'espace Schengen, c'est pour la liberté, le code Schengen, c'est pour la sécurité. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à d'abord à avancer dans le débat public. Et puis ensuite, évidemment, il faut que tout ça soit assorti de faits. On a déjà dit ce qu'il en était des faits qui voulaient revenir en arrière sur contrôle systématique aux frontières, qui serait possible, mais qui serait tellement coûteux que personne, au-delà des discours électoralistes, ne le fera jamais. Sauf peut-être les nationalistes, si eux, ils arrivent au pouvoir, mais ça, ce sera au risque et péril de ceux qui les auront mis là. Pour le reste, quand on agit au niveau européen, eh bien, il faut alors agir à la source, hein, c'est-à-dire à la source des réseaux terroristes qui sont à l'extérieur très souvent, ou alors dans nos territoires. Et ça, c'est la coopération policière et judiciaire. C'est vrai aussi pour la criminalité. En effet, Mohamed Hamra, il a cru bon de partir en Roumanie parce qu'il croyait qu'il serait plus protégé là-bas et que les polices étaient corruptibles. Il s'est trompé. On l'a attrapé. Coopération policière, remise immédiate grâce au mandat d'arrêt européen, parce que les journalistes parlent encore d'extradition, mais pas du tout dans l'espace européen. Ça s'appelle une remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt, ça va beaucoup plus vite, l'Europe s'est adaptée à ça. Et puis pour ce qui est des flux migratoires, bien oui, pareil, agir avec les pays de transit, les pays à la source. Et là-dessus, je voudrais prendre l'exemple de Giorgia Meloni, parce que Giorgia Meloni, c'est intéressant, elle arrive au pouvoir avec une coalition de droite et même d'extrême droite, et elle dit, vous allez voir ce que vous allez voir, mais... Elle avait bien pris la précaution avant d'aller agir à la source. Dans un cadre européen, elle est allée faire plusieurs visites avec Madame von der Leyen, Mark Rutte en Libye. Elle ne joue pas que sur la ligne. Elle a d'ailleurs assez fortement révisé sa position vis-à-vis des flux migratoires, parce qu'au début, elle disait qu'il en faudrait plus, puis maintenant, il y en a davantage.
Elle a régularisé
voilà.
400 000
clandestins.
Non, mais donc, c'est intéressant, confronté au réel, parce que pour le coup, là, on peut en parler, son idéologie nationaliste a dû en rabattre et adopter désormais une position un peu plus pragmatique qui n'est pas anti-Schengen.
Oui, si je peux me permettre, il y a quand même un point très important dans ce cas, puisqu'on a une perspective historique intéressante dans cette émission, on prend un peu le temps de regarder le temps long. Quand l'accord de Schengen, le code Schengen ont été adoptés, il n'y avait pas de mandat d'arrêt européen, il n'y avait pas de procureur européen, on était à un niveau de coopération des justices et des polices qui, objectivement, était probablement tout à fait insuffisant. On donne des libertés, on se rend compte qu'il faut plus de sécurité et les deux doivent aller de pair. Sur Madame Meloni, je dois dire que les accords qui ont pu être passés en Libye ou en Tunisie, sur le plan des valeurs européennes, pour ma part, je ne les approuve pas entièrement, même si effectivement c'est avec les pays de départ et de transit qu'il faut travailler.
France Culture, ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Alors sur ces actions en amont, justement, j'ai une question, parce que une question liée à la France, mais c'est vrai que la France a été chassée de tous les pays d'Afrique dans lesquels elle avait des accords de défense, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad. Elle est en relation très conflictuelle avec l'Algérie. Donc en fait, les relations de la France avec ces pays qui sont des pays obligatoires pour discuter, si on veut... en fait, limiter les flux migratoires, sont très mauvaises. Comment on fait ? Est-ce qu'on a moins d'efficacité aujourd'hui qu'on en avait il y a 2 ans, à cause de ça ou pas ?
Ma position, enfin, à titre très personnel, hein, ça a toujours été de ne pas nier l'interdépendance. Quand en diplomatie, vous niez l'interdépendance, vous n'y gagnez rien. Donc on assiste à des concours pré-élections présidentielles de fermeté vis-à-vis de l'Algérie, de promesses inconsidérées. Ça ne veut pas du tout dire accepter les conditions de l'autre pays. Mais il est clair que ce qui s'est passé ces dernières années, et si ça continue avec des illusions de grands discours, on n'ira pas très très loin. Nous avons besoin de gérer avec tous ces pays, non seulement les flux d'entrée, mais les questions... d'éventuels renvois dans ces pays de ressortissants qui sont arrivés chez nous en se prévalant d'un statut de réfugié qu'ils n'ont finalement pas obtenu, etc., etc. Ce sont des questions extrêmement complexes. Mon expérience de la diplomatie au début de ma carrière professionnelle, c'est que les meilleurs diplomates, ce ne sont pas ceux qui hurlent le plus sur les plateaux télé ou qui font des grandes déclarations intempestives. C'est de regarder ce qui peut être fait en tenant compte aussi de facteurs qui sont je dirais très compliqué. Vous avez mentionné les pays d'Afrique comme le Mali, le Niger, le Burkina, etc. Ce sont des pays dans lesquels il y a des tentatives de déstabilisation venant de la Russie. La raison pour laquelle ces pays ont basculé n'est pas uniquement due, même si des erreurs ont pu être commises, à la France. Deuxième chose,
la Russie,
démographie.
Pardonnez-moi, qui elle-même utilise la carte migratoire comme une arme contre l'Europe.
En Biélorussie, par exemple, où on a incité des malheureux à se rendre dans ce pays pour en fait les mettre dans les pattes des Polonais ou des Ukrainiens. Donc tout ça est assez lamentable, d'abord sur le plan humain. Et donc je dirais, il y a un jeu géopolitique, et c'est là aussi que l'Europe, si elle se constituait sur le plan de la diplomatie, aurait plus d'influence. Deuxièmement, un des facteurs par rapport à la date de signature des accords de Schengen, c'est le basculement total de la démographie. Nous sommes désormais confrontés à des populations africaines extrêmement jeunes et dynamiques et nombreuses. Et donc, l'idée qu'il y aurait des solutions simplettes pour arrêter les flux migratoires est une idée qui égare les électeurs et les citoyens. Ça n'est pas simple. Mais la bonne idée aussi de développer un petit peu ces pays, d'encourager des investissements, d'encourager le maintien dans ces pays des jeunes formés de manière à ce que les économies de ces pays leur offrent des perspectives chez eux, c'est un élément, la coopération, qui a disparu du débat public. On a vu les décisions prises par Donald Trump sur USAID qui vont avoir des répercussions considérables sur nos pays, puisque de nombreux programmes sanitaires ou d'aide au développement financée par les États-Unis ont été coupées du jour au lendemain. Donc il faudrait peut-être que tous les amis de M. Trump en Europe expliquent en quoi la politique des États-Unis vigoureuse et nouvelle mode va nous aider, nous, à affronter les questions migratoires. Il y a là des enjeux nouveaux dont j'ai l'impression que tous ceux qui ont été financés par la Russie ou aidés par M. Musk ferait bien de prendre conscience.
Yves Bertoncini, est-ce que les décisions de Donald Trump chez lui contre l'immigration, et notamment vis-à-vis du Mexique, est-ce que le souffle de ces décisions va se faire sentir en Europe, et notamment, est-ce qu'ils vont booster encore le modèle des courants populistes européens ?
Oh, sans nul doute. C'est toujours délicat de faire des comparaisons. Le nationaliste avec qui j'ai pu débattre m'avait dit un jour, il faut faire comme l'Australie. Bah oui, bah bien sûr, l'Australie qui est une île avec des côtes. Bref, l'Europe n'est pas une île, c'est un cap eurasiatique. On n'est pas non plus les États-Unis d'Amérique, qui n'ont que deux voisins terrestres, le Mexique et le Canada. Parfois aussi en Europe, ils prennent l'exemple danois. Et bah, la Danemark, il n'a que deux voisins, c'est pareil, pas beaucoup. Bien sûr, tout pourra apporter de l'eau au moulin des nationalistes. Simplement, il faut réinscrire ces débats mythologiques dans la réalité. Et si on en revient à vos questions sur l'Algérie et les pays du Sahel, bon, c'est sûr que la France, là, paye un peu son passé colonial. Aussi ses réflexes postcoloniaux, je crois, parce que elle paie aussi, oui, d'un positionnement. Alors bon, pour l'Algérie, le choix qui a été fait par Emmanuel Macron de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, c'est un choix qui avait des avantages et des inconvénients.
Les avantages, ça n'allait pas terriblement bien avant non plus.
Les avantages, je les vois pas trop, mais les inconvénients, je les vois bien. Et effectivement, avec l'Algérie, c'est pas une surprise. Hélas, je dirais. Mais si on est dans une logique sécuritaire. Voilà, parce que revenons au-delà de la mythologie, dans la logique sécuritaire. Nous avons plus besoin de l'Algérie que l'inverse. Voilà. Nous avons besoin de l'Algérie pour lutter contre le terrorisme islamiste au Sahel. Elle nous a aidés, il y a des autorisations de survol, il y a de la coopération, il y a du renseignement, etc. Et nous avons évidemment besoin de l'Algérie pour qu'elle reprenne ses ressortissants quand ils n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va s'arranger. Je crains que la politisation excessive de l'affaire, la mobilisation de réflexes postcoloniaux, y compris dans le cadre d'une campagne interne à un parti, n'ait fait déjà beaucoup trop de dégâts. Voilà, et donc j'espère, sans trop y croire, qu'on va revenir sur le terrain, j'allais dire, des faits et donc de la logique sécuritaire qui doit nous inciter à nouer des partenariats avec ce type de pays-là. Peut-être que d'ailleurs, effectivement, je reviens à la souveraineté européenne, l'Union européenne a de bonnes cartes à jouer, parce que l'Union européenne en tant que telle n'a pas de passé colonial, elle n'a pas que des États membres qui ont eu un passé colonial d'ailleurs, et donc j'allais dire au regard de l'Algérie et de ces pays-là, c'est peut-être un acteur un tout petit peu plus neutre, un tout petit peu moins connoté, j'allais dire, historiquement et émotionnellement.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, le départ de la France du Mali qui a entraîné celui de l'Union européenne, puisque leur présence était liée, le départ de la France du Sahel, le départ de la France de plusieurs pays d'Afrique, quelles conséquences sur la sécurité, ça a ?
Je dirais que c'est fâcheux. C'est fâcheux qu'on ait été aussi chassé de la mine d'Orano dans l'un des pays du Sahel. Voilà, parce que c'était un des trois endroits où on allait s'approvisionner avec le Canada et le Kazakhstan. Bah alors maintenant, on a un nouveau partenariat Orano en Mongolie. Enfin, la Mongolie, c'est quand même coincé entre la Russie et la Chine. Donc, j'espère que ça va marcher. Tout ça est fâcheux. Je ne suis pas suffisamment expert des questions franco-africaines pour aller plus loin, mais c'est fâcheux. Il faut s'adapter à un monde dont l'Europe n'est plus le centre, dans lequel il y a des pays du Sud qui nous font encore un peu payer, y compris eux aussi, hein, en instrumentalisant les émotions de leurs concitoyens. Voilà notre passé colonial et puis nos erreurs récentes.
Ouais, alors, juste pour préciser pour nos auditeurs, Orano, donc c'est le successeur de Areva.
Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que bon, il y a une histoire coloniale sur laquelle la France a besoin de revenir. C'est pas de la repentance, mais c'est aussi de comprendre la difficulté que tout cela crée. Je tiens simplement à rappeler que c'était François Hollande, moi j'étais pas du tout aux affaires à l'époque, mais lorsque la France a été appelée au Mali, elle l'avait été par le gouvernement de l'époque, sur la base d'un accord bilatéral, pour défendre Bamako contre la possible prise de la ville par des terroristes d'Al-Qaïda au Sahel. Donc voilà, donc il y a un passé colonial. Il y a avec l'Algérie une relation qui est une plaie ouverte, mais je crois qu'il y a eu aussi des époques où il y a eu des accords qui ont été passés avec des États souverains. Il se trouve que certains de ces États ont basculé à la suite de coups d'État depuis lors. Voilà, il faut peut-être pas.
Mais est-ce que ça affaiblit les frontières extérieures de l'Union européenne ?
Non, mais ça n'affaiblit pas les frontières. Parce que l'Algérie est quand même plus que simplement un vivier de personnes qui nous créent des difficultés. C'est un partenaire historique, c'est un pays qui a un potentiel, qui a une jeunesse. Il y a des liens humains qui sont extrêmement nombreux et profonds avec notre pays. Il faut trouver des solutions pragmatiques, il faut trouver des manières de vivre ensemble et cesser de penser. Enfin, cette émission est vraiment intéressante, je trouve, parce que j'avais moi-même jamais à ce point réfléchi à la question de ce qu'il y a derrière la représentation psychologique de la frontière. La frontière, c'est en fait le passage pour avoir des relations avec les autres. Et moi, ce qui m'intéresserait le plus, c'est qu'on construise avec un certain nombre de pays avec lesquels nous avons eu des liens malheureux ou moins malheureux avec le passé, une relation tournée vers l'avenir, ne serait-ce qu'à cause de leur démographie et de l'âge moyen de ceux qui y vivent. Si nous n'arrivons pas à trouver des voies de coopération pour l'avenir, on y perdrait beaucoup.
Yves Vertoncini.
Oui, sur ces sujets migratoires, il ne faut pas effectivement oblitérer la dimension démographique que souligne Sylvie, et non plus la dimension identitaire. Ce qui est assez frappant en Europe récemment, c'est que quand il y a eu à un moment un afflux massif de demandeurs d'asile qui venaient plutôt d'Orient et d'Afrique, l'Europe s'est divisée. Parce que pour Angela Merkel en particulier, il fallait qu'ils viennent. C'était des demandeurs d'asile, des victimes à secourir et puis éventuellement des ressources pour l'économie allemande. Alors que pour d'autres, je pense à Orban qui a instrumentalisé tout ça, c'était des menaces identitaires. Alors que quand l'invasion russe de l'Ukraine est survenue, il y a eu jusqu'à 5-6 millions de réfugiés qui sont venus, y compris en Hongrie, en Pologne, dans ces pays-là, et qui ont été acceptés sans coup férir, parce que très souvent, c'était des femmes, des enfants, disons les choses, des Blancs. Et donc, ces crispations identitaires, sans les justifier, il ne faut pas les méconnaître. Bon, et évidemment, chez nous, ça se greffe sur une histoire coloniale, on ne va pas y revenir, une forme de racisme, d'abord, qui existe en France, mais aussi une forme d'anxiété culturelle. Voilà, qu'il faut prendre au sérieux, l'anxiété culturelle. Donc, oui, il y a aussi un discours qu'il faut tenir sur ce sujet-là. Après, la partie identitaire, elle est sur nous. Madame Merkel, quand elle a dit « on va les accueillir, wir schaffen das, on va y arriver », c'est parce qu'elle avait de l'Allemagne une vision, une représentation ouverte, généreuse. En fait, quand on fait le bilan, parce qu'on a le recul de 10 ans, ça s'est plutôt bien passé en Allemagne, en réalité, l'intégration de cette masse énorme de demandeurs d'asile. Il y a eu des agressions sexuelles parfois, des attentats terroristes, encore récemment. Et donc, évidemment, que ça n'a pas été qu'une success story. Mais ça a été quand même, globalement, économiquement, humainement, quelque chose de positif. La question dans ce contexte qui est posée aux Européens, c'est quel arbitrage ils font, et ça vaut pour la France, entre ces considérations identitaires, ces crispations, et nos nécessités économiques et sociales. Parce que nous vieillissons, nous rétrécissons, nous les Européens. Nous avons besoin d'un apport migratoire. On peut toujours dire qu'il faut relancer la démographie. Hélas, même en France, elle commence à chanceler alors qu'on a résisté des années et des années. Quel arbitrage veut-on faire ? Mais c'est un arbitrage ouvert, hein. Il faut le poser comme ça, entre l'indispensable apport migratoire, y compris d'ailleurs de la part de ressortissants de nos anciennes colonies, simplement parce qu'il y a des diasporas, ils parlent la langue, ils nous aiment aussi. Hein. Et puis de l'autre côté, le fait qu'on n'en voudrait pas, et à ce moment-là, il va falloir quelques révisions déchirantes hein, du point de vue de notre système social, nos systèmes de retraite, etc. C'est ce débat qui devrait être posé de manière un peu moins passionnelle, un peu moins hystérique par nos responsables publics.
Non, je voulais juste ajouter une chose, c'est que ce qui est intéressant quand on regarde l'Union européenne, on n'a pas du tout parlé par exemple de l'Espagne ou de l'Italie sous l'angle de l'apport de populations venant d'Amérique du Sud. Et c'est là encore une question qui est à la fois identitaire et de ce fait respectable. Il ne faut pas négliger le choc identitaire que certains peuvent ressentir. L'Allemagne, par exemple, dans laquelle je vais très souvent, parce que je préside un institut en Allemagne, s'est transformée d'une manière incroyable. Ça se voit quand moi je prends les transports en commun, je prends le temps d'aller un peu me promener parce que sinon, si on participe qu'à des débats, on voit pas les pays. Enfin, on se rend bien compte que l'Allemagne, en l'espace de 20 ans, s'est probablement beaucoup plus transformée que la France, qui a toujours eu cet apport de population venant de ses anciennes colonies ou du département de l'Algérie, etc. Et donc, le choc en Allemagne a été plus brutal. Mais pour en revenir à l'Espagne ou à l'Italie, là, il y a un choix différent qui consiste à aller prendre de la main-d'œuvre dans des pays d'Amérique du Sud catholiques, dans lesquels les différences raciales sont peut-être moindres, et qui aboutissent notamment en Espagne à une régularisation de centaines de milliers de gens. Si vous regardez l'essor économique de l'Espagne en ce moment, il est en partie dû au choix qui a été fait, que je ne veux même pas commenter, mais je dis simplement, regardons, le pays qui a le plus de croissance en ce moment, c'est un pays qui a fait le choix d'un apport de main-d'œuvre. Parce que nous savons tous que dans les arrières-salles des restaurants, dans les EHPAD, comme dans de nombreuses activités agricoles ou de chantier, la main-d'œuvre n'est pas une main-d'œuvre nationale depuis longtemps. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des stratégies assez différentes quand on regarde l'ensemble de l'Union européenne.
J'ai une question, on n'a pas encore parlé de Frontex. Et j'aimerais quand même qu'on y passe quelques minutes. Quelles sont les failles de Frontex? Pourquoi Frontex n'est pas assez efficace? Est-ce que ce sont des questions budgétaires, Yves Bertoncini?
Alors là aussi, hein, Frontex est sous le feu croisé des critiques, parce que certains diront qu'il n'est pas assez efficace, et d'autres, les ONG en particulier, diront qu'au contraire,
ils sont trop
agressifs, ils repoussent des gens, ils ne respectent pas les droits humains. Donc Frontex fait ce qu'il peut, c'est une agence qui a été créée par l'Union européenne, du côté de Varsovie. C'est une agence qui soutient les États membres, mais on n'a pas encore passé le cap. Le cap, ça serait le corps européen de garde-frontière. Le corps européen de garde-frontière, ça serait vraiment à échelle de 10 000 personnes, un corps européen qui serait capable d'intervenir aux frontières européennes en cas de crise, hein, parce qu'en temps normal, ce sont les États membres qui gardent les frontières de l'Union européenne. Il y a des sujets humains, financiers, il y a des sujets technologiques aussi, de satellites, d'observation, si on est en train de parler des afflux migratoires et des passeurs, hein, qui font risquer la vie à des personnes à qui il faudrait d'ailleurs ouvrir des canaux d'immigration légales. Hein, et ça, c'est en parallèle. Normalement, c'est prévu par l'Union européenne. Donc voilà, Frontex, c'est typiquement l'initiative au milieu du gué. C'est-à-dire, c'est une forme de coopération technique. Ce n'est pas de la souveraineté partagée pleinement. Ce n'est pas, comme par exemple la Banque Centrale Européenne, la gestion d'une monnaie fédérale par une institution fédérale. C'est quelque chose d'un peu mieux qu'intergouvernemental. Mais à qui, et j'y reviens, les États membres ne donnent pas tous les moyens, parce que d'abord, ils les ont pas tous, mais aussi parce qu'il y a une forme de déficit de confiance, d'acceptation. Et je voudrais quand même ajouter une dernière chose, parce que le déficit de confiance en matière migratoire, il s'incruste aussi sur un déficit de solidarité. Parce que si les Italiens et les Grecs, et Sylvie a parlé tout à l'heure du règlement de Dublin, font vraiment tous les contrôles, s'ils enregistrent vraiment tous les personnes à Lampedusa ou à Lesbos, à ce moment-là, ils sont réputés en garder un grand paquet. Et eux, ils disent, nous, on veut bien faire ça à condition que vous en preniez une partie. Et il y a eu des mécanismes de solidarité, de relocalisation qui ont été mis en place. Et malheureusement, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Alors parfois, c'est les demandeurs d'asile qui ne veulent pas aller dans des pays où ils ne connaissent personne, où ils ne vont pas trouver de boulot, où il n'y a pas de diaspora. Mais souvent, c'est aussi, et la France en a fait partie, parce qu'on rechigne à les accueillir. Hein, rappelez-vous Manuel Valls qui avait dit 30 000 et pas un de plus. Ils ne sont jamais venus d'ailleurs, les 30 000. Mais le signal qu'on envoie, là, c'est un signal de déficit de solidarité qui se greffe sur ce déficit de confiance préalable. Frontex, transformé en corps européen de garde-frontières, permettrait de résoudre ce déficit de confiance. Mais s'il n'y a pas, de l'autre côté, un surcroît de solidarité entre États membres, en cas d'afflux massif, eh bien, certains États, dont l'Italie et autres, ne laisseront pas Frontex déployer ses ailes.
C'est votre analyse aussi, Sylvie Goulard ?
Oui, enfin, on a dit à plusieurs reprises, Yves l'a très bien dit, l'Europe est au milieu du gué. Et encore une fois, on peut tout concevoir pour l'avenir. On peut aussi dire, bah, finalement, on replie la tente européenne et puis chacun reste chez soi. Moi, j'attire l'attention des gens sur le fait qu'on ne peut pas demander à l'Europe de faire ce qu'on n'a pas voulu qu'elle fasse. On est exactement dans cette contradiction-là. Au lieu de dire, voilà, on délègue certaines fonctions et les autres, on ne les délègue pas, on est toujours un peu dans, oui, il faut que l'Europe s'en occupe. Mais d'un autre côté, quand on regarde de manière un petit peu plus précise, comme on a eu la chance de faire dans cette émission, on se rend compte que les vraies prérogatives qui ont été données à des gens qui pourraient faire le boulot correctement, et je le dis bien, par souci d'efficacité. On le voit de la même manière en matière de défense. Moi, je suis très inquiète qu'on entende de plus en plus « l'Europe va faire ceci, l'Europe va faire cela ». Mais de quoi parle-t-on ? De quel niveau ?
Surtout sur la défense.
Oui, mais justement, mais il faut qu'on arrête de dire l'Europe. L'Europe, c'est avec la Norvège et le Royaume-Uni, la Suisse. Est-ce que c'est que l'Union européenne ? Est-ce que c'est l'Union européenne, mais pas Monsieur Orban parce que il n'est pas fiable ? Est-ce que ça sera à la carte ? Nous devons nous poser un certain nombre de questions. Ce qui est certain, c'est que l'Europe va pas venir nous border dans notre lit le soir et nous garantir des nuits heureuses si le matin, quand nous nous réveillons, nous n'avons pas créé les fondements et donner pas plus que les prérogatives nécessaires, mais les donner vraiment avec une classe politique qui dit « Ok, par exemple, tu as parlé de l'euro, Yves. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on serait en ce moment avec l'arrivée de Trump et les fluctuations sur les marchés si on n'avait pas fait l'euro ? Vous avez entendu un politique en Europe dire parmi ceux qui sont au pouvoir « Merci Bruxelles ». Merci Francfort, merci les grands-parents Kohl et Mitterrand. Heureusement qu'on a fait tout ça. Finalement, il y a des trucs qu'on a fait qui marchent et ça devrait nous amener à être plus confiants sur ce qu'on a devant nous. Et si on continue à valser entre le national et l'européen, l'Europe quand ça m'arrange, mais le national avec mon petit drapeau, ah oui, mais comme l'a dit Yves, on fait confiance, mais pas trop, puis on est solidaire, mais pas trop, on a des plans de cohésion, des transferts financiers, mais alors quand ça m'arrange pas, je fais plus partie du club, ça marchera pas. Mais je suis pas forcément pessimiste, parce que je trouve que la gravité de la situation mondiale devrait nous conduire non seulement à regarder le champ que nous avons regardé aujourd'hui, mais à regarder la question des frontières, de la justice et de la police dans un ensemble beaucoup plus large, une vision qui est beaucoup plus politique et qui va de la diplomatie à la défense et avec les contrôles de démocratie qui sont nécessaires.
Yves Bertoncini.
Un parallèle historique et somme toute positif qu'on peut faire entre l'euro et Schengen, ce sont des initiatives. L'euro a concerné au départ seulement 10 États membres sur 12. 10, parce qu'il y en a deux qui n'ont pas souhaité y entrer. Bon, le Royaume-Uni et le Danemark, après référendum. Nous sommes 20 désormais. Voilà, donc il faut croire que si 10 autres pays ont rejoint la zone euro, c'est qu'ils y ont trouvé un certain avantage et ils n'ont pas fait ça dans le dos de leur peuple. Hein. À chaque fois, il y a eu des élections ou des référendums pour passer à l'euro. Et regardez Schengen dont on parle aujourd'hui. Nous partîmes à 5. Nous sommes aujourd'hui, dans l'Union européenne, 25 sur 27, c'est-à-dire tout le monde. Parce qu'en fait, les deux seuls qui n'y sont pas, ce sont les deux îles divisées, que sont Chypre et l'Irlande. Et donc là, il y a un problème factuel des murs pour ce qui est de Chypre, Irlande, voilà, Irlande du Nord, Irlande du Sud, en plus dans le contexte post-Brexit, voilà. Mais tout le monde y est. Tout le monde y est.
Plus
il y a d'ailleurs
plus d'autres,
c'est-à-dire plus les États de l'espace économique européen. Là, on revient à l'économie. La Norvège, qui par deux fois n'a pas voulu, le peuple norvégien n'a pas voulu rejoindre l'Union européenne, mais ils sont dans l'espace économique. L'Islande, le Liechtenstein et la Suisse, qui a encore un arrangement particulier. Mais en tout cas, voilà, ça fait. Nous sommes partis à 5, nous sommes 29. Il y a bien une raison pour laquelle nous sommes 29. Pourquoi les autorités toutes démocratiques de ces pays-là ont souhaité rejoindre l'espace Schengen? La Bulgarie et la Roumanie, on les a fait patienter d'ailleurs, parce qu'il y avait des suspicions, effectivement, sur la fiabilité de leurs services de police, de leur justice. Et je trouve que l'affaire Mohamed Amra vient tout à fait confirmer qu'ils se sont mis aux normes européennes. Et donc, ça avance dans des crises, avec des tensions et effectivement des défis, mais qui sont relevés cas un cas, avec un décalage entre les réalités prosaïques, humaines, économiques et les discours politiques. Je dirais que simplement ceux qui annoncent régulièrement la mort de Schengen, voilà, font des annonces un tout petit peu prématurées à chaque fois.
C'est la fin de cet épisode consacré aux accords de Schengen. Merci beaucoup Sylvie Goulard, merci beaucoup Yves Bertoncini. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec à la technique aujourd'hui Ludovic Auger, attaché de production Théa Corlaire. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.